Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Bonjour à tous, bienvenue en direct sur Europe 1, il est 4h58, nous sommes le lundi 25 février, ce matin je suis d'humeur. La voix soul de Sam Cooke, un artiste à l'honneur d'un documentaire portrait magistral d'un artiste qui nous rappelle ce que signifient les mots engagement, lutte, tolérance. Nous y reviendrons à 5h45. Un film à voir sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix. Et Netflix est à l'origine d'un autre film de fiction, Roma. Or, se déroule à l'instant même la cérémonie des Oscars et Roma a déjà remporté une statuette et pourrait en rafler d'autres. Nous vous tiendrons au courant tout au long de cette matinale. Il n'est pas à Los Angeles, mais dans ses Alpes suisses. Mathieu Noël a pris quelques jours de repos, vous l'aurez compris, un peu de tranquillité pour nous aussi, un peu de sérénité. Et en même temps, il nous manque déjà le « en même temps » est déterminant quand il s'agit de parler de Mathieu Noël. Cela évite des représailles, non pas sanglantes, mais cinglantes, quoique. Il n'est pas le seul à avoir déserté le studio. Vous allez entendre de nouvelles voix ce matin, retrouver d'autres voix que vous connaissez bien, comme celle de deux personnes qui vont nous accompagner toute cette semaine. Bonjour Anissa Haddadi, Aurélien Fleurot.
Bonjour Eva Rock, bonjour à tous. Eva.
Vous allez bien les amis?
Super bien.
Anissa, parfait. Vous serez ma vigie et le lien avec les auditeurs. Oui. Quelle question est à l'ordre du jour ce matin sur Twitter avec le hashtag Europe 1?
Alors aujourd'hui, nous sommes le 25 février, c'est l'anniversaire d'Herbert Léonard.
Mon Dieu.
Herbert Léonard, voilà. Il a chanté pour le plaisir
de chanter.
Pour
la journée.
Qu'est-ce qu'on adore ce morceau.
Ne nous remerciez pas.
De temps en temps.
Et la question,
c'est, eh ben vous, quelle est la chanson que vous avez honte d'aimer? Vous savez, ce petit plaisir coupable qu'on
la
a tous
gêne.
Dans notre téléphone ou dans la voiture, qu'on adore écouter tout seul. Venez nous le dire. Je peux vous dire qu'il y a des tubes hein, ce matin sur Twitter.
J'ai l'impression. C'est sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et à vos côtés, donc, vous venez d'entendre sa voix, Aurélien Fleurot. Aurélien qui est déjà passé par la case petit matin. Les yeux qui piquent, les cheveux en vrac. Mais
on
le sourire,
connaît.
On est d'accord.
C'est toujours un plaisir.
Voilà, vous serez notre monsieur écran pendant 5 jours. Voilà, nous sommes prêts et presque au complet. De l'info, des bons plans, des invités, de la bonne humeur, debout les copains, c'est parti.
Merci d'avoir choisi Europe 1, nous sommes le 25 février. Il est 5h. 5h, 7h, Eva Rock sur Europe 1.
Et le premier journal de ce lundi 25 février, c'est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Les titres.
La piste d'un impôt universel tué dans l'œuf par Matignon, évoquée hier par la ministre de la Cohésion des Territoires. Elle a été recadrée. La Corse en proie à une série d'incendies ravageurs. 1500 hectares ont brûlé en un peu plus de 24 heures, attisés par de forts vents. Les autorités ont recensé près de 50 départs de feu. Et puis les Monégasques ont battu les Lyonnais en Ligue 1 de football 2-0. Monaco va mieux. Lyon perd du terrain pour la qualification direct en Ligue des Champions.
Europe 1.
Paierons-nous tous demain des impôts, y compris les moins aisés d'entre nous? La piste n'est pas à l'étude, assure Matignon en réaction hier aux propos d'une ministre qui ont semé le trouble, ceux de Jacqueline Gourault en charge de la cohésion des territoires, qui a estimé dans le journal du dimanche que, je cite, « chacun pourrait contribuer à la hauteur de ses moyens, ne serait-ce qu'un euro ». L'idée n'est pas nouvelle, mais elle a été bien vite retoquée, Adrien Beck.
On ne sortira pas d'une crise née d'un ras-le-bol fiscal par une hausse des impôts. La phrase tourne en boucle au sein de l'exécutif. C'est aussi la pensée d'Emmanuel Macron. Alors forcément, l'impôt sur le revenu pour tous, y compris les plus modestes, esquissé par Jacqueline Gourault, ne tarde pas à être retoqué. La piste n'est pas à l'étude, réagit très vite l'entourage d'Édouard Philippe. Non, on n'y travaille pas, surenchérit-on à Bercy, où l'on rappelle volontiers que les Français paient déjà tous la CSG et la TVA. Ce cadre de la majorité prend moins de gants. Elle ferait mieux, dit-elle, de s'occuper de ce qu'elle connaît, les collectivités locales. Alors pourquoi cette sortie de Jacqueline Gourault? Elle voulait peut-être pousser une idée portée de longue date par le Modem, s'interroge un député. Voilà en tout cas l'idée enterrée et les ministres priés d'éviter d'avoir une trop grande créativité fiscale. Message assez clair dans l'entourage d'Édouard Philippe. Il y a plein d'autres sujets à mettre au débat que celui de la fiscalité.
Adrien Beck, 18 personnes restent en garde à vue ce matin après les incidents en marge de la manifestation des Gilets jaunes samedi à Clermont-Ferrand. Hier, mobilisation pacifique, notamment à Paris. Les Gilets jaunes souhaitaient marquer les 100 jours du mouvement. Quelques-uns d'entre eux ont occupé un café sur les Champs-Élysées de la chaîne américaine Starbucks pour, disent-ils, dénoncer l'optimisation fiscale.
Europe 1, il est 5h02.
La Corse a vécu une deuxième nuit d'incendie. maladies difficiles à maîtriser, des renforts doivent arriver ce matin par bateau de Brignoles et de Marseille. Des canadairs doivent décoller d'ici peu. Les autorités ont espoir que la baisse du vent violent permette d'éviter la propagation. 1500 hectares ont été dévastés, 48 départs de feu enregistrés, 15 en Corse du Sud, 33 en Haute-Corse. Pas moins de 8 enquêtes sont ouvertes pour tenter d'établir les origines des sinistres.
En Algérie, nouveaux appels au rassemblement.
Il s'agit de protester à l'encontre de l'interdiction des manifestations dans le pays contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika, 82 ans samedi. Bien que très diminué, il est en lice pour un cinquième mandat hier encore dans le centre d'Alger. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté. Des rassemblements de soutien ont aussi eu lieu à Paris, place de la République. Au Venezuela, l'aide humanitaire américaine reste bloquée à la frontière colombienne. Le week-end a été marqué par des scènes proches de la guerre civile, au moins 2 morts. L'armée fidèle au président contesté, Nicolas Maduro, repoussant avec violence les partisans du président autoproclamé Juan Guaido. Ces derniers voulaient faire entrer cette aide que refuse Maduro parce qu'elle vient des États-Unis. Maduro qualifié par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo de pire des tyrans, se disant certain que les jours du président vénézuélien sont, je cite, comptés.
Allez, on finit, Jérôme, sur une note plus légère. Nous sommes nombreux à avoir profité ces derniers jours du beau temps.
Et oui, 22 degrés à Bordeaux, 19 à Toulouse, 16 à Paris, 15 à Lille. Lille, reportage sur une grande place ensoleillée et enjouée, Kevin Tuillier.
Après un début d'année sous la grisaille et la neige, les Lillois n'attendaient que ça, passer un moment en terrasse, la chaise tournée vers le soleil.
Moi, ça m'a semblé long. Hein. On pouvait moins sortir, il faisait froid, il y avait de la neige. Là, il fait beau, donc ça va mieux.
On revit. Ça donne envie de se promener, d'aller en terrasse. De toute façon, le soleil, c'est la vie. Hein.
Malgré les 15 degrés au thermomètre en milieu d'après-midi, certains n'osent pas encore enlever le manteau et l'écharpe. Pour ce couple, ce n'est pas encore le printemps.
Ouais, ça reste voilà. Frais. Hein. Au soleil, on est bien, mais à l'ombre, c'est plus frais. Et comme on dit, l'hiver n'est pas fini. Hein. On a vu des mois de mars enneigés. Hein.
Ouais.
Les gens vont beaucoup trop vite. Là. On voit en short tout ça. Bon, enfin, je veux bien. Chacun son truc, comme on dit, mais bon, il ne faut pas aller trop vite.
Un dernier jour ensoleillé avant la rentrée pour des enfants comme Jules, 4 ans, qui ont pu en profiter. Un maximum.
Le soleil avait disparu, mais là il est apparu et c'est bien parce qu'on peut jouer, chanter. Il y a des oiseaux qui sont.
Fini les vacances, Jules va pouvoir observer le soleil et le ciel bleu à travers les fenêtres de sa salle de classe. Le soleil qui devrait briller au-dessus de la région au moins jusqu'à mercredi.
Le reportage de Kevin Tuillier
trop
à
choupi.
Lille. Trop chouette. Ouais. Et puis c'est en ce moment à Hollywood. Les notes de Queen qui ont ouvert la 91e soirée des Oscars.
Comme
justement.
Au César, mais dans un autre genre. Ouais.
Elle n'a pas pu s'empêcher. Le film Bohemian Rhapsody, justement, qui raconte l'histoire du groupe, a déjà raflé plusieurs statuettes à l'instant. Rami Malek, sacré meilleur acteur donc, pour ce film Bohemian Rhapsody. Oscar de la meilleure actrice décerné à Olivia Colman pour le film La Favorite du grec Yorgos Lanthimos. Du coup, Lady Gaga ne l'a pas.
Et non. Mais elle en a eu un quand même pour la meilleure chanson.
Voilà, et puis autre favori, un Roma, un film Netflix du Mexicain Alfonso Cuarón, qui a notamment reçu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Mais c'est pas fini.
Merci beaucoup, Jérôme. Je vous ai même pas demandé. Vous n'êtes pas trop triste de la désertion du patron, de Céline Dacosta? Non, ça va?
Lequel des deux vous
sur je ne sais pas. Vous pouvez quand même assurer le journal d'espoir?
Pas du tout, je vous adore, je suis très heureux d'être là avec vous.
Vous pouvez quand même assurer le journal d'espoir?
Ah, bien sûr.
Bon, allez, on enchaîne avec le journal d'espoir. Et à la une, les Lyonnais qui tombent du rocher.
Les footballeurs
qu'est-ce
de
que
l'OL,
c'est cette histoire
oui, ils ont perdu à Monaco. Donc hier soir, c'était en Ligue 1. 2-0 en clôture de la 26e journée. Défaite logique, hein, après une première période complètement manquée de la part des Rodaniens. Peut-être un peu de fatigue. Hein. Il y a eu Barcelone en Ligue des Champions cette semaine. On n'a pas vu le vrai Lyon ce soir, a dit l'entraîneur Bruno Genesio. Le gardien Anthony Lopez déplorait, lui, un manque de vigilance collective sur les deux buts encaissés.
Ouais, c'est vrai qu'on en fait deux cadeaux. C'est deux cadeaux. Donc, énervé, frustré. Après de l'énervement, c'est savoir passer au-dessus à ce niveau-là. Là, tout le monde a droit à l'erreur. Mais voilà, c'est plus l'entente de match, c'est plus déplu qu'autre chose cette première période qui ne devrait même pas exister à notre niveau.
Et voilà, ce matin, les Lyonnais, toujours troisième, mais désormais à 5 points des Lillois, les deuxièmes, une deuxième place directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Sinon, il faut passer par un tour préliminaire, c'est ça l'enjeu. Les Monégasques restent 16e et avec désormais 5 points d'avance sur le 19e. Les nombreux changements opérés au marché hivernal des transferts semble payer pour l'instant.
Des autres résultats d'hier, on retiendra le match nul des Marseillais.
Un partout à Rennes et fin de série après 3 victoires d'affilée. L'OM 5e à 5 points du podium, à égalité de points avec les surprenants Rémois 6e, victoire de Reims hier 4-2 à Montpellier. Par ailleurs, Nantes-Bordeaux 1-0, Toulouse-Caen 1 partout. En Angleterre, Manchester United décimé par les blessures à 9 jours du 8e de finale retour de Ligue des Champions à Paris. Alors il y a Pogba qui est suspendu, il y a le défenseur Matic, le Serbe, il est blessé, ça on le sait depuis depuis samedi, mais hier, 4 joueurs ont subi des pépins physiques lors d'un match de championnat, dont les précieux attaquants Mata et Rashford. C'était lors d'un choc contre Liverpool, il y a eu 0-0. Et puis à noter Manchester City, victorieux de la Coupe de la Ligue anglaise au tir au but contre Chelsea.
Et on termine évidemment avec le chiffre du jour.
5 buts inscrits hier par la superstar du handball Nikola Karabatic. Il a égalé son record de buts marqués sur un match cette saison. C'était avec le PSG pour une victoire en Ligue des Champions 36-32 chez les Hongrois de Célier. C'était l'avant-dernière journée du premier tour de cette Ligue des Champions. Les Parisiens sont qualifiés pour les quarts de finale. Les Montpelliérains, tenants du titre, ont manqué l'occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils ont été battus à domicile 36-28 par Barcelone, mais il restera une dernière chance de se qualifier samedi à Skopje en Macédoine.
Merci Jérôme, je constate que même en absence du patron, vous êtes parfait. Vous revenez quand même dans quelques minutes pour notre revue de presse.
Bien sûr.
On est d'accord.
Il est 5h08, Eva Roque.
Debout les copains continue avec un point météo concocté par Laurent Cabrol, suivi du pressing, notre habituelle revue de presse en mode zapping. Mais avant, nous aurons fait connaissance avec Céline Evon. Elle a fait ce que beaucoup d'entre nous rêvons de réaliser, changer de vie. Tout changer pour voir la vie autrement et trouver du sens à son existence. Céline était préparatrice en pharmacie. Elle est devenue vendeuse d'olives.
Europe 1, il est 5h09, Eva Roque.
Debout les copains se poursuit sur Europe 1 avec mes deux complices, Anissa Haddadi et Aurélien Fleureau. Et Laurent Cabrol vient de nous rejoindre. Est-ce que la météo, Laurent, de cette semaine sera aussi clémente que celle de ce week-end? Faites-nous rêver.
Pas toute la semaine. Pas toute la semaine. Non, ma chère Eva, ça ira bien aujourd'hui, demain et après-demain. Et après, ça va se gâter. On en reparlera, bien sûr. Et je voudrais dire que nous sommes lundi 25 février. Ça, vous l'avez déjà évoqué. Vous dire qu'on fête les Roméo et que vous êtes ma Juliette du matin.
Oh, merci, Laurent.
Top, on a rajouté. Oh, ça suffit.
Oui, ça suffit. Oui.
On se calme. Et puis, vous dire qu'il fera très beau partout, que ce sera une journée idyllique, mais qu'il fait froid ce matin. Nous avons beaucoup de température négative, moins 2 à Charleville, moins 1 à Beauvais, 1 à Rennes, 2 à Lyon, 3 à Cognac et Clermont-Ferrand en ce moment, hein, 4 en banlieue parisienne, 6 à Bordeaux, 7 à Paris-Ville et 8 degrés à Nice. Vous voyez qu'il faut se couvrir, puis il fera beau tout le temps.
Merci Laurent, vous revenez juste avant 5h30 pour une météo complète. Anissa, comment vont nos auditeurs? Est-ce que vous pouvez nous rappeler la question du jour?
Alors, ils vont très bien, nos auditeurs, ils sont en très grande forme sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Aujourd'hui, nous sommes le 25 février, c'est l'anniversaire d'Herbert Léonard. Herbert Léonard, c'est pour le plaisir.
C'est bien évident.
On a une chanson que nous connaissons par cœur.
Ouais,
on vous la met dans la tête pour toute la journée. Alors on s'est dit, tiens, quel est vous votre petit plaisir coupable côté musique? Quelles sont les chansons que vous aimez écouter? Alors attention, accrochez-vous. Rugodin nous dit ça.
Ah bon, Patrick Juvet.
Ça marche, même le lundi matin.
Ça marche.
Ça marche dans les fêtes, les anniversaires.
Vous en avez une autre ou pas?
Ah bon, on en a plein d'autres. On a Daki qui nous dit, si je vous dis, et tu chantes non. Ce refrain qui te
non,
plaît à 5h du matin. Eh bah si, ça pique, mais ça fait du bien, nous dit Daki. Puis alors, il y en a une autre. Carole, coucou les filles, je ne suis pas sûre d'être gênée, quoique ce morceau est la chanson du jour.
Le pire, c'est qu'on les connaît par cœur.
Ça devient un karaoké, cette émission.
Jean-Luc Lahaye. Et merci beaucoup, vous continuez à réagir
sur Twitter
Europe 1,
bien
avec
sûr.
Le hashtag Europe 1.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Roque.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui ne cesse jamais d'allier bonne humeur et info pour un réveil, nous l'espérons, agréable, histoire de ne pas vous faire regretter de vous lever. Ne pas regretter, eh bien, c'est souvent le point de départ de toutes les personnes qui acceptent de témoigner chaque matin sur Europe 1 de leur changement de vie. Il fallait oser et ils l'ont fait, comme Céline Evon de Jean Menil dans les Vosges. Elle était préparatrice en pharmacie pendant 20 ans et puis elle a eu le coup de foudre il y a 2 ans pour un stand de commerce d'olives en se promenant sur le marché d'Épinal. Passionnée par la gastronomie, eh bien, elle a décidé de racheter l'affaire.
Fallait oser.
L'année dernière, en allant acheter des olives, comme je le fais régulièrement sur le stand, j'ai été sur Épinal et il y avait un petit mot sur le stand des anciens propriétaires en marquant « entreprise à vendre ». Et je me suis dit « pourquoi pas ?». C'est carrément un coup de cœur, hein. C'est vraiment le coup de cœur du stand, parce que le stand était vraiment magnifique, c'est des cuveaux en bois. Donc j'ai pris leur carte, j'ai été contactée et c'est parti tout simplement de là.
Céline s'est formée auprès des anciens propriétaires du stand. Elle vend des olives, mais elle élabore également des recettes, soupe au riesling ou tartare de feta. Elle se fournit auprès des grossistes. Les olives, proviennent essentiellement du Maroc ou de Grèce. Aujourd'hui, elle travaille sur le marché couvert d'Épinal et sa vie n'a plus rien à voir avec celle d'avant.
Je suis plutôt bien, même très très bien. C'est vraiment un changement de vie extraordinaire. Bon, on ne compte pas les heures, forcément. On n'est plus à 35 heures par semaine, mais c'est complètement une autre vie, quoi. Il n'y a aucun point commun. Si ce n'est que le contact avec la clientèle, voilà, sur les marchés ou à Épinal, au marché couvert. J'ai aucun regret, je ne retournerai pour rien au monde en pharmacie, même si on me doublait le salaire pour y retourner, je n'y retournerai pas.
Alors justement, si vous venez à Paris pour le salon de l'agriculture, vous pourrez goûter les spécialités de Céline sur le stand de Grand Est. Et puis vous le savez désormais, si vous aussi vous avez changé de métier et que vous voulez nous faire partager votre expérience, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h13, Eva Roque. Vous écoutez Debout les copains, 2 heures où toute l'équipe vous délivre les dernières infos avec des sourires dans la voix. Sa voix, lui, elle peut monter dans les aigus. Calogero, on se sait par cœur, extrait de son dernier album Liberté Chérie sur Europe 1. Et si c'était mieux comme ça, chante Calogero sur Europe 1, avait-il anticipé le fait que nous allions diffuser sa chanson alors que Mathieu Noël s'offre quelques jours de vacances? Je ne crois pas.
Il est 5h16.
Et voici l'essentiel de l'actualité de ce 25 février avec vous, Eva Roque. La piste d'un impôt universel retoquée par Matignon, évoquée hier par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault. La piste n'est pas à l'étude, assure Matignon. En Algérie, de nouveaux appels au rassemblement sont lancés en ce début de semaine. Protestation contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, samedi. Bien que très diminué, il est en lice pour un 5e mandat. Hier encore, dans le centre d'Alger, plusieurs centaines de personnes ont manifesté. Et puis les Monégasques ont battu les Lyonnais en Ligue 1 de football 2-0. Monaco va mieux, mais Lyon perd du terrain pour la qualification directe en Ligue des Champions.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce lundi. Anissa et Aurélien, oui. Si vous êtes joueur ou plutôt parieur, oui. Bref, que vous aimez miser sur des chevaux, prenez de quoi noter, c'est l'heure des pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Eva, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Marseille-Borély et mon pari gagnant sera le 112 Desert Warrior. Il aura l'avantage d'évoluer chez lui, à domicile, sur une piste qui convient parfaitement bien à ses aptitudes. De plus, il sera à nouveau muni d'une paire d'œillères, un artifice qui lui a souvent bien réussi et qui lui permet surtout de hisser son niveau et d'être aussi beaucoup plus concerné par son job de cheval de course. Dès lors, il devrait pouvoir justifier les bruits très favorables dont il fait l'objet le matin sur les pistes d'entraînement. Alors notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Marseille-Borély, réunion 1 dans la première course, le numéro 12, Desert Warrior.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h18.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Roque.
Vous êtes sur Europe 1 et vous écoutez Debout les copains. Et normalement, à ce moment-là de la matinée, Mathieu Noël entre dans une sorte de transe, s'imagine des histoires de colocation entre nous, comme si nous vivions ensemble. Du pur délire. Enfin presque, les amis, parce qu'il faut reconnaître que nous partageons beaucoup de secrets entre nous. On adore se raconter nos histoires de cœur, relater ce qu'on a fait pendant le week-end, voire la veille au soir. Vous pensiez que Mathieu Noël bossait le soir?
Ouais.
Oui. Enfin, bah oui. Parfois non.
Parce que hier, moi, j'ai cassé une manette. Parce que je fais, vous le savez, une très très belle saison dans FIFA. Ah, et là, à l'issue de ma troisième saison et de ma troisième Ligue des Champions, gagnée, on m'a proposé d'entraîner l'équipe de France. J'ai mis oui, j'ai signé le contrat, seulement j'ai pas sauvegardé. Et la partie d'après, ils avaient oublié. Et c'était le Costa Rica qui me proposait de devenir entraîneur. Alors j'étais dégoûté et j'ai fracassé la manette par terre.
Oui, c'est un homme violent. On ne dira pas plus. Hein, mais oui, histoire d'éviter toute vengeance disproportionnée. On se concentre plutôt sur notre pressing, la revue de presse en mode zapping. Et ce matin, la une de vos quotidiens, Le Parisien revient sur la multiplication des actes antisémites avec ce titre choc, des familles juives contraintes de déménager. Après 10 jours à écouter les Français au cœur des différents débats, Libération restitue ses paroles pour proposer son tour de France du grand débat. Autre une qui retient l'attention ce matin, celle de Corse Matin, avec une photo effrayante du village de Calanzana et les collines enflammées derrière, la Corse en feu, titre Le Quotidien. Mais vous, chers amis, quel article a retenu votre attention? Aurélien, on commence par vous.
Allez, moi je me suis arrêté sur les pages politiques du Parisien, page 6, et ce titre, Profession sœur de dictateur. Alors, a priori, ça ne se passe pas en France. Est-ce que vous avez une petite idée du pays concerné?
Ça sent la Corée, non?
Jérôme Anissa.
Ouais. Ah ouais, la Corée, bah ouais. Oui. C'est Kim.
Corée du Nord, ouais. Je me suis arrêté donc sur ce portrait de Yo Jong, la sœur de Kim Jong-un, et surtout une sorte de numéro 2 du régime sans en avoir le titre officiel. Et si on en parle ce matin, c'est que mercredi et jeudi, Donald Trump et Kim Jong-un vont se retrouver à Hanoï, 8 mois après l'historique sommet de Singapour. Alors on se souvient, la poignée de main, les sourires plus ou moins forcé, mais tout de même un accord signé sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Et donc, Yo Jong commence à avoir un rôle politique, ça fait à peu près 2 ans, et elle a, comme ses deux frères, été élevée en Suisse sous une fausse identité. Sa première apparition publique, je ne vais pas vous poser la question, je ne pense pas que vous
aucune
vous en souvenez.
Mais pas du tout.
Déjà, il fallait regarder la télévision nord-coréenne. Oui. C'était en 2011, au moment des cérémonies d'enterrement de leur père, Kim Jong-il. L'article du Parisien précise que les Nord-Coréens avaient donc découvert cette jolie jeune femme au visage baigné de larmes. Déjà, elle était au second plan, derrière son frère, le futur leader. Donc elle est utilisée pour contrebalancer l'image de Kim Jong-un. C'est elle d'ailleurs qui a été envoyée en Corée du Sud pour inaugurer les Jeux d'hiver en février 2018,
ah
au
oui,
moment
c'est vrai,
où la tension avec... Voilà, c'est vraiment le moment où la tension avec les États-Unis était au plus haut. On se demandait si une troisième guerre mondiale n'allait pas être déclenchée par 2 tweets. C'était donc une offensive de charme diplomatique. On la voyait élégante, souriante, assise à côté de Mike Pence, le vice-président américain. Donc, ce qui accrédite aussi un petit peu cette volonté de la présenter comme la numéro 2 du régime. J'ai appris qu'auparavant, elle avait ce titre de dirigeante du département de la propagande et de l'agitation du Parti des travailleurs.
Ah oui, comme ça c'est clair. Hein, voilà.
Ça affiche clairement les choses. Et donc maintenant, voilà, elle assiste à toutes les réunions qui comptent. Et on comprend donc qu'en Corée du Nord, le droit du sang est primordial. En revanche, on ne sait pas si elle sera présente mercredi ou jeudi. Il y a toujours un peu un suspense sur ses apparitions, un peu comme pour celle de son frère. Donc on verra si elle vient éventuellement à
Hanoï. On surveillera ça, on va revoir ça.
Exactement.
C'est-à-dire dans le Parisien. Merci oui. Aurélien Fleureau. Anissa, qu'est-ce que vous avez retenu ce matin dans la presse?
Alors moi, Eva, j'ai repéré le parcours d'un homme dans la Croix avec la mobilisation des Gilets jaunes. Le journal a lancé une série de portraits et le journal est allé à la rencontre des personnes qui vivent avec des revenus inférieurs au salaire médian. Le salaire médian, c'est environ 1 800 € par mois. Alors aujourd'hui, on découvre Baptiste Blanchard. Il a 28 ans. Il est prof de maths au collège et il gagne, lui, 1 500 € net par mois. Baptiste, au départ, il n'est pas destiné à devenir professeur. Il aurait pu mener une très, très belle carrière dans l'aéronautique. Il avait fait des études pour calculer un algorithme pour la glace qui se pose sur les ailes d'avion. Donc c'était quand même très pointu, très précis. Et il a eu plusieurs échecs pendant des entretiens d'embauche. Alors du coup, il décide de changer complètement de cap. Et il donne des cours pour arrondir les fins de mois dans un collège privé. Il se rend compte que c'est une vocation, qu'il adore ça. Il passe son CAPES, il l'obtient du premier coup. Il est nommé dans un petit village de Seine-et-Marne, un petit village qui s'appelle Perthe. Il utilise, alors il nous raconte son quotidien, il utilise plus son vélo que sa voiture par souci d'écologie, mais aussi
d'économie.
Aussi. Exactement. Oui. Quand il évoque les salaires de ses amis ingénieurs, parce qu'il a rencontré des amis qui sont devenus ingénieurs à Paris, ils gagnent tous environ 2 500 € net par mois, mais il ne les envie pas du tout. Il ne changerait pas son cadre de vie pour un salaire plus important. Il dit le métro, courir partout, etc. Ça ne m'intéresse pas. Baptiste, il adore son métier. Il dit que c'est un métier qui est peu valorisé socialement, mais ce qu'il aime, c'est le contact avec ses élèves. Il s'est fixé 2 objectifs, Baptiste, pour l'année à venir. La grègue de maths et la certification en langue pour enseigner dans les lycées français à l'étranger. Aujourd'hui, il fait un constat en tant que professeur. Il est témoin de la détresse de certains Français. Il comprend la mobilisation des Gilets jaunes. Il explique que dans sa classe, 1/4 des élèves sont obligés d'emprunter une calculatrice parce que la famille n'a pas les moyens d'acheter le matériel nécessaire aux études des enfants au collège. Et pour finir sur une note positive, le rêve de Baptiste, eh bien, c'est de créer un Erasmus pour tous. Il voudrait que tout le monde puisse bénéficier d'une aide financière pour vivre et apprendre des autres à l'étranger, parce que lui, c'est comme ça qu'il s'est formé, notamment en Colombie.
Il est bien ce garçon.
Il est très bien et vous pouvez le retrouver dans La Croix. C'est un très très beau portrait.
C'est souvent le cas quand il décide de faire des collections de portraits. La Croix, c'est souvent très juste. Donc là, j'imagine que toute la semaine, on va avoir droit à de jolis portraits comme ça. Merci beaucoup. Ça fait du bien aussi d'entendre des paroles de Français qui vont bien et qui croient encore à leur métier. Jérôme Lacroix, est-ce que vous êtes aussi optimiste ce matin?
Moi, toujours, oui. Après, vous allez voir, je vais vous parler de quelque chose. Bon, certes, justement, on est pile dans le thème. Pour certains, c'est vraiment l'avenir, l'optimisme. Et pour d'autres, ce sont des abominations. Le choix des Échos ce matin de revenir sur la spectaculaire avancée en Chine de la génétique. Vous vous souvenez peut-être il y a 2 mois. Vous vous souvenez, il y a 2 mois, on vous en avait parlé, une annonce. L'annonce choc, j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais là pour le coup c'était vraiment stupéfiant. Un généticien chinois qui annonçait la naissance des premiers bébés humains génétiquement modifiés, les petites jumelles. toujours pas mal de zones d'ombre hein, autour de ces naissances qui ont en tout cas choqué vraiment la communauté scientifique. Et une troisième naissance du même ordre serait à venir. Et on apprend encore dans le papier des Échos qu'une équipe de neuroscientifiques de Shanghai aurait réussi à faire naître 5 clones d'un macaque, d'un primate. C'est en tout cas ce qu'elle a annoncé fin janvier. Alors, les Échos posent la question, faire naître 5 primates, est-ce un épiphénomène 23 ans après Dolly la brebis? Eh bien non, témoigne un expert dans le quotidien, parce que cloner un macaque, eh bien ce serait autrement plus compliqué que cloner une brebis. Voilà, donc du coup, c'est... ça ne peut pas être considéré comme un épiphénomène, c'est vraiment un travail de fond. Alors, dans quel but aurait-il, je dis aurait parce qu'il y a
toujours une incertitude sur la véracité de ces éléments. Voilà. Ouais, ouais.
Alors, ce serait pour étudier les maladies mentales humaines. Ils ont modifié, en fait, le génome du modèle unique pour le rendre malade. Et ensuite, les autres étant ces copies conformes, eh bien, ils ont constitué des bases de travail pour tenter de soigner des maladies mentales humaines. C'est en tout cas leur argumentaire. Alors ces expériences, et surtout la naissance des jumelles dont on parlait, elles soulèvent toujours l'indignation de la communauté scientifique. L'argumentaire du chercheur qui a fait naître les jumelles, hein, qui est surnommé depuis le Frankenstein chinois, parce qu'il aurait travaillé tout seul dans son laboratoire, sans comité d'éthique, sans en informer sa hiérarchie, rien du tout, c'était de rendre les enfants, dès la naissance, résistants au virus du sida. Mais les Échos rappellent qu'aujourd'hui, on sait très bien éviter aux bébés tout risque d'infection dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant. Cet argument-là, il ne tient pas. Ce qui inquiète encore plus les scientifiques, c'est que ces jumelles, elles auront peut-être un jour elles-mêmes des enfants. Et alors là, c'est le grand vertige, parce qu'on n'a aucune idée de ce que peut donner l'enfant d'un parent au génome modifié. La modification du génome d'un embryon humain peut altérer le patrimoine génétique de toute la lignée.
Oh là là.
Alors là, on peut imaginer tout et n'importe quoi, à quoi ressembleront ces nouveau-nés. Difforme, avec des rides, diaboliquement parfait. Enfin voilà.
Oh là là, quelle angoisse.
Et c'est à lire dans les Échos.
Dans les Échos, ouais. Ouais.
Merci beaucoup, Jérôme. Merci à tous. Les amis, le pressing referme ses portes, en tout cas pour 24 heures. En attendant, n'hésitez pas à lire la presse tout en écoutant Europe 1, évidemment.
Europe 1. Il est 5h27, Eva Rock.
Debout les copains continuent avec la météo et le journal d'Hélène Zélani. Délicieux réveil à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h28, Eva Rock.
Laurent Cabrol, un point sur la météo de ce 25 février.
C'est du beau temps.
Génial. Ouais, on est content.
Ça n'a pas duré.
Ah alors, non.
J'aime bien casser un peu les cris de joie des dames. Alors, il fait en ce moment entre moins 2 et plus 7. 7 à Paris, vous voyez, c'est une température bonne pour Paris. Moins 2 à Mulhouse, Charleville, etc. Moins 1 à Beauvais, à Vichy, en passant par 3 à Nancy, 4 à Lille. Mais dans la journée, ça sera quand même bien plus agréable, avec des valeurs de 14 à 17 au nord et de 18 à 22 au sud. Donc, vous voyez, les températures vont vraiment grimper. C'est un temps que les paysans n'aiment pas, je vous dirai pourquoi. C'est en fait la nature... a besoin du froid et il y a un dicton qui est très sympa. Mieux vaut un loup dans le troupeau que le mois de mai, que le mois de février, pardon.
Ah oui, ça marche pas sinon.
Que le mois de février, trop beau. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un petit coup de froid à cette époque de l'année, mais rassurez-vous, il arrive. Voilà.
Ah bon, bah écoutez, bah, tant mieux, j'ai envie de dire, hein, évidemment. Hein. Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe 1, 5h, 7h. Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui tente d'allier info et bonne humeur à suivre. Les conseils culturels et technologiques de la bande de lundi Les Bons Tuyaux avec un nouveau jeune padawan. Clément Le Saffre est notre monsieur high-tech et il s'est lancé un défi pour cette première, nous expliquer l'intérêt de la 5G. Expliquer pourquoi les boissons allégées en sucre ne sont pas sans risque pour la santé, ce sera le défi du docteur Marcel Ichoux. Et oui, s'efforcer d'avoir un corps de rêve cet été ne passe pas forcément par quelques litres de boissons light.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller. Il est 5h. À 5h07, Eva Rock.
Les infos de ce lundi 25 février 2019. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
1500 hectares détruits par le feu en Corse, notamment au nord à Calenzana. Pour le maire, il s'agit d'incendie criminel. Matignon ferme la porte à la proposition de la ministre Jacqueline Gourault, un impôt sur le revenu payé par tous les Français. Et puis la fin de la cérémonie des Oscars à Los Angeles il y a quelques instants. Green Book est sacré meilleur film. Rami Malek, meilleur acteur pour Bohemian Rhapsody.
Europe 1.
La Corse vient donc de vivre une deuxième nuit d'incendie. Pas moins de 48 départs de feu en 36 heures. Attisés par des vents violents, des canadairs doivent décoller dans 2 heures pour tenter d'éteindre les derniers feux, et notamment sur la commune de Calenzana, dans le nord, près de Calvi, où 1200 hectares sont partis en fumée. Au total, 8 enquêtes ont été ouvertes pour déterminer précisément l'origine de ces incendies. En Haute-Corse, prudence du côté de la préfecture, qui évoque des écobuages, des débroussaillages mal maîtrisés. Mais le maire de Calenzana balaie cette hypothèse.
Non, il n'y avait pas d'éco-buage. C'est un coin où il n'y a pas de jardin, il n'y a rien du tout. Pour moi, c'est criminel. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On est habitué à avoir des feux en période estivale. Donc, ça s'y prêtait peut-être pour celui qui a eu l'idée de craquer une allumette. Quoi. Voilà. Je suis très en colère parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui il y ait des pyromanes en liberté qui, malheureusement, ne mesurent pas le danger qu'ils font courir aux sapeurs-pompiers, à la population et à différentes personnes qui se sont mobilisées avec une exemplarité de très grande qualité.
Pierre Guidoni, maire de Calenzana, joint pour Europe 1 par Pierre Herbulot. 170 pompiers et gendarmes restaient mobilisés hier soir en Haute-Corse. 166 en Corse du Sud. Des renforts venus de Marseille et de Brignoles dans le Var arriveront ce matin par bateau.
18 personnes restent en garde à vue ce matin après les violents incidents en marge de la manifestation des Gilets jaunes. C'était samedi à Clermont-Ferrand.
Oui, des personnes qui étaient entre 2500 et 5000 réunies au début dans le calme. Mais au moment de la dislocation du cortège, environ une centaine s'est attaquée à des commerces qui ont été vandalisés. Des projectiles ont également été lancés sur les forces de l'ordre. Selon le procureur, parmi les casseurs, il y avait des groupuscules venus d'Allemagne et d'Italie. 55% des Français veulent que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête. Un sondage Odoxa publié ce matin. À peine lancée, l'idée d'un impôt pour tous est déjà enterrée. La proposition évoquée dans le JDD par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, était que chacun contribue à la hauteur de ses moyens, ne serait-ce qu'un euro. Réponse très rapide de Matignon, la piste d'un impôt sur le revenu universel n'est pas à l'étude. L'entourage du Premier ministre rappelle que les Français paient déjà l'impôt dès le premier euro avec la CSG et que tous payent la TVA.
Europe 1, il est 5h33.
En Algérie, nouvelle manifestation hier contre un cinquième mandat du président Bouteflika.
Oui, des centaines de personnes ont encore défilé à Alger malgré l'important dispositif policier. Un mouvement de contestation spontanée et populaire soutenu par la communauté algérienne de France. D'ailleurs, hier, une manifestation parisienne était organisée place de la République. Écoutez le reportage de Jeanne Bergaoui.
D'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, le cortège de manifestants crie la même colère, les mêmes slogans. Pas de cinquième mandat, le peuple veut le changement. Il faut en finir avec la mascarade politique, affirme Linda, franco-algérienne.
Monsieur le Président, on ne l'a pas vu depuis des années. Il n'a pas parlé à son peuple, on ne le voit pas. Ça, ce qu'on appelle, je m'excuse pour le terme, se foutre de la gueule du peuple. C'est le point de non-retour. Le peuple s'est réveillé, le pouvoir panique. Il a peur.
Le pouvoir sous la pression de la rue, c'est la première fois depuis 20 ans à Alger. Un espoir pour Abderrahmane de voir basculer la vie politique algérienne.
Ce mouvement a pris une ampleur colossale et ça ne va pas s'arrêter et ça va aboutir à un changement radical et on va renverser le système et choisir notre président à notre propre volonté.
Jamais la contestation autour du président Abdelaziz Bouteflika n'avait été aussi forte, mais à 2 mois de la présidentielle, il n'existe pour l'instant pas d'alternative connue à cette candidature.
Jeanne Bergaoui, quant au président Bouteflika, il est arrivé hier à Genève pour des examens médicaux.
Comme vous me faites plaisir,
là,
Hélène.
Je crois qu'on a tous des frissons. C'est la voix, évidemment, de Lady Gaga. Avec Bradley Cooper en duo sur la scène des Oscars. La cérémonie vient de se terminer à Los Angeles. Et ce titre, Shallow, est sacré meilleure chanson originale. Extrait du film Star is Born. Et c'est le film Green Book de Peter Farrelly qui remporte l'Oscar. Film européen d'ailleurs. Le Mexicain Alfonso Cuarón est sacré meilleur réalisateur pour Roma. L'acteur Rami Malek qui joue Freddie Mercury, meilleur acteur dans Bohemian Rhapsody. Et puis autre ambiance pour la meilleure actrice, Olivia Colman. Pour la favorite.
On s'en lasse pas de cette chanson. Moi, j'en réécouterai un petit bout, non ?
Non, bah avec voilà. Grand plaisir.
Non ? Merci beaucoup. C'était le journal d'Hélène Zelani. Hélène, partez tranquille. Aucun son à votre rencontre, aucune phrase tenue hors micro ne sera diffusée cette semaine à Bienveillance et Demi. Ça fait du bien, hein ?
Ah ouais, voilà. Bonnes vacances,
merci. Et même Jérôme Lacroix peut entrer dans ce studio en toute tranquillité. Voilà. Parlez sans crainte, Jérôme. Bah, c'est l'heure de votre journal d'espoir. Et à la une, Jérôme, chez les Bleus du rugby, même le repos, c'est compliqué.
Oui,
c'est quoi cette histoire ?
Une semaine de repos pour les joueurs du 15 de France qui ont gagné un samedi après-midi face aux Écossais dans le tournoi Destination. Enfin, une victoire. Alors, le retour au centre d'entraînement de Marcoussis dans l'Essonne n'est pas prévu avant plusieurs jours. Une coupure, finalement mal comprise par certains, Simon Rubin.
Oui, et c'est vrai que cette petite coupure n'est pas du goût de tout le monde. Alors l'avantage, évidemment, c'est que les joueurs vont pouvoir souffler, se ressourcer psychologiquement surtout. Mais après la victoire sur l'Écosse, dans le staff, on aurait plutôt apprécié pouvoir enchaîner sur une nouvelle semaine de travail, rester dans le bain, dans la bonne dynamique de cette victoire. Alors là, tous les joueurs rentrent donc dans leur club, ils vont continuer l'entraînement. Ils ont d'ailleurs reçu tous quelques consignes de la part des entraîneurs du 15 de France. Retour à Marcoussis vendredi prochain, a priori avec un groupe similaire, même si dans l'encadrement du 15 de France, on ne s'interdit pas d'apporter quelques changements. En vue donc du prochain grand match en Irlande, ce sera dimanche 10 mars.
Simon Rubin et ses Irlandais justement victorieux hier en Italie, 26-16. On jouait aussi en championnat de France hier de rugby et les Clermontois ont perdu à Lyon 19-13 en clôture de la 17e journée de top 14. Je ne rappelle pas, enfin le Toulouse est toujours leader. Voilà,
d'accord, mais des Lyonnais en revanche battus en foot.
Oui, défaite de l'OL à Monaco 2-0 hier soir en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Début de match complètement manqué face à une équipe monégasque revigorée car transformée au mercato d'hiver. Et voilà les Lyonnais, toujours 3e mais désormais à 5 points des 2e. Les Lillois, les Rodaniens perdent du terrain pour une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Par ailleurs, fin de série pour les Marseillais. Un partout hier soir à Rennes après 3 victoires d'affilée. Des Provençaux qui ont trouvé l'égalisation en seconde période. L'entraîneur Rudy Garcia salue une capacité de réaction.
On a été bien meilleur en 2e. De toute façon, c'était pas compliqué d'être meilleur parce qu'on n'a pas fait 3 passes en première période. Et puis on a perdu beaucoup trop de duels. Mais bon, on a eu la bonne idée de jouer enfin notre football et d'être beaucoup plus en mouvement, beaucoup plus simple, beaucoup plus dynamique. Et puis d'être beaucoup plus présent aussi dans la bataille.
Les Marseillais 5e ce matin, talonnés par de surprenants Rémois 6e. Reims victorieux hier 4-2 à Montpellier. Également hier Nantes-Bordeaux 1-0. Toulouse-Caen 1 partout. Le basket et les Bleus finissent sur une bonne note les éliminatoires du Mondial. Ce Mondial l'été prochain en Chine. Large victoire française 82-66 face aux Tchèques en dernier match de qualification. Les Français savent depuis plusieurs matchs qu'ils sont qualifiés pour le Mondial.
Et on termine évidemment avec la personnalité du jour.
J'ai choisi Thomas Fanara, le bleu du ski, 38 ans, et il est monté hier pour la 3e fois de l'hiver sur un podium en géant en Coupe du Monde. 3e à Bansko en Bulgarie derrière les redoutables Hirscher et Christoffersen, le Norvégien, champion du monde de la spécialité. Belle performance.
Merci beaucoup, c'était le Jérôme des Sports de Jérôme Lacroix.
Le Jérôme des Sports.
Le vous revenez quand même.
Ça lui va bien, ça voilà.
On la ressortira celle-là.
Ouais, je pense qu'on va la garder. Vous revenez
25,
dans une demi-heure.
5h38.
Pour un nouveau point sur l'actualité sportive du week-end.
Il est 5h39, Eva Rock.
Il est 5h39, qu'est-ce que je vous dise.
Ça se comprend.
Voilà, vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui chaque matin vous informe, vous amuse, enfin on essaye et vous offre aussi quelques bons conseils comme ceux du docteur Ichou, Marcel qui ce matin nous parlera du danger potentiel des boissons allégées en sucre. Et oui, il faut se méfier de tout en matière d'alimentation, surtout quand il s'agit de sucre.
J'ai le temps de manger un sablé encore là.
Non, vous nous ramenez plutôt du chocolat et plutôt de votre Suisse ou pas d'ailleurs.
Il est 5h41, Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, il est l'heure, Laurent Cabrol, de savoir ce que nous réserve vaguement la météo du jour.
Pourquoi vaguement?
Rapidement, c'était ça plutôt le mot exact. Non, c'est pas une insulte. Allez-y,
non.
Laurent.
Si je vous le dis en un mot.
Allez-y.
La contrepétrie du jour.
Oui.
Beau et chaud.
D'accord.
Chaud
très bien.
Vous
c'est
prenez
parfait.
Ce que vous voulez.
Oui.
C'est un temps vraiment très agréable avec des valeurs de 12 à 17 au nord. Il fera 17 à Paris, vous voyez, c'est pas mal. Hein.
Ah oui.
17 à Lyon même, et entre 18 et 22 au sud, 22 dans les Landes, 19 à Toulouse, et 18 degrés même à Nevers. Voilà, pour une journée très sympa, il faut en profiter, mais ce matin il fait froid, couvrez-vous.
On se couvre, merci beaucoup Laurent. Anissa, quoi de neuf du côté Twitter? Vous nous rappelez la question que vous avez posée aux auditeurs depuis 5h ce matin?
Ah bon, on leur a demandé quel est leur petit plaisir coupable en matière de chansons, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Herbert Léonard, et forcément quand on parle d'Herbert, on pense à
Pour le plaisir.
Voilà, on va vous le mettre.
Aurélien, il est...
Je préfère vous prévenir.
Je pense qu'on va perdre Aurélien Fleureau surtout sous cette histoire.
Alors on vous a dit, on vous a demandé quelle est la chanson que vous écoutez mais que vous avez un peu honte d'avouer. Alors il y a Critia qui nous dit: coucou les copains, en fait moi j'ai deux chansons de la honte, À fleur de toi de Vita.
Ah oui.
Et Il avait les mots de Sherif Alouna. Bon, on est sur un peu le R&B, oui, années 2000, pas très assumé. On a Emergie. Alors attention là, accrochez-vous parce que vous allez tous m'en vouloir pour la journée.
Oui,
Emergie
déjà.
Nous dit: je crois que la chanson de la Reine des Neiges revient.
Libérée,
encore hier matin sous la douche, je l'ai chantée.
Il a des enfants, je peux
c'est
comprendre.
C'est très très coupable.
Alors, je pense que c'est encore plus coupable quand on n'a pas d'enfant. Et puis, bonjour Eva, bonjour Anissa, Je te survivrai de Jean-Pierre.
Ah, mais évidemment.
C'est une musique qui me reste dans la tête toute la journée, que j'aime écouter. Et puis, alors, il y a une dédicace pour vous, Eva, et pour moi. Géronimo qui nous dit le tube de Philippe Cataldo, c'est un peu Anissa et Eva en somme.
Les divas du dancing, les divas du dancing.
Non, je connais pas ça.
Sur les années 80,
j'étais, non, j'étais pas née, c'est pour
les
ça.
Les divas du dancing, non, bien sûr.
Merci Anissa.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
On va reprendre notre sérieux, Anissa, parce que c'est l'heure de notre page santé avec le docteur Ichou. Bonjour Marcel.
Bonjour Eva.
C'est l'heure de ce point santé, une information avec une information qui concerne tout le monde. Qui, en effet, n'a jamais consommé une boisson light, à savoir une boisson allégée en sucre? Or, une récente étude menée par des chercheurs new-yorkais met en exergue des risques d'AVC pour les femmes, notamment, qui seraient férues de ces boissons. Alors, d'après vous, les boissons light, mauvaises ou pas pour le cœur?
Alors, je suis un peu agacé. Je veux dire pourquoi? Parce que, en fait, il n'y a pas d'information. On nous enfume. Les boissons light, évidemment, qu'elles peuvent avoir un risque. Pourquoi? Parce que tout ça est relayé pour donner l'impression que light, ça veut dire minceur, ça veut dire ligne. Or, ça n'est pas le cas. Vous savez, mon combat souvent contre les vitamines prises n'importe comment, c'est exactement la même chose. C'est du marketing, c'est de la communication.
Pourquoi tant de haine, j'allais vous dire, dans ce discours ce matin?
Parce que vous allez comprendre la supercherie. Le sucre peut potentiellement, en excès, donner du diabète. Le diabète agit sur les artères. Agissant sur les artères, il va les modifier et les rendre un peu plus rigides et les organes vont être moins bien vascularisés. Alors, le cerveau, accident vasculaire, mais aussi le cœur, infarctus, les membres inférieurs, artérites des membres inférieurs. Donc, on n'a rien appris de nouveau. Au-delà du diabète, il y a une maladie en pleine extension aux États-Unis qui vient en France, qui est la NASH.
La NASH,
vous savez, NASH, ça veut dire non-alcoolique stéatose hépatique. C'est quoi la NASH? C'est l'équivalent de la cirrhose avec le sucre. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'éminemment dangereux.
Donc, plus c'est light et moins il y a de sucre?
Eh bien, c'est là la supercherie. Et je vais vous expliquer. Un bonbon sucré, normalement, 270 calories.
Et un bonbon light?
Un bonbon light, 230 calories.
Ah ouais.
Or, quand vous avez du light, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, oh ben moi je suis tranquille.
J'en mange deux fois plus.
Je peux manger deux fois plus. Et on en mange deux fois plus. Et puis, progressivement, eh ben, le diabète va arriver et les dégâts vont être monstrueux. Beaucoup plus importants que si vous mangez du sucre, parce que là, vous faites plus attention.
Soyons raisonnables. C'est votre message tous les jours. Merci docteur Ichou. On se retrouve demain 5h40 avec de nouveau des conseils santé.
Europe 1. Il est 5h45. Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains. Deux heures d'information et de bonne humeur contagieuse avec à mes côtés Anissa Haddadi et Aurélien Fleureau. À suivre d'autres conseils culturel et technologique délivré par la bande de Lundi les bons tuyaux avec au programme Molière, de la 5G et de la Soul. Thierry Geffrotin, Clément Le Saffre et Aurélien Fleureau sont déjà prêts dans le studio, prêts à partager leur info. Mais d'abord, une voix folk venue d'Irlande, Power Over Me par Dermot Kennedy sur Europe 1. Dermot Kennedy sur Europe 1. Retenez son nom, je pense qu'il sera un artiste très convoité pour participer au prochain festival de l'été.
Il est 5h48. Et voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Eva Rock.
La Corse en proie à des incendies ravageurs. 1500 hectares ont brûlé en un peu plus de 24 heures, attisés par de forts vents. Les autorités ont recensé près de 50 départs de feu. 18 personnes restent en garde à vue ce matin après les incidents en marge de la manifestation des Gilets jaunes samedi à Clermont-Ferrand. Et enfin, au Venezuela, l'aide humanitaire américaine reste bloquée à la frontière colombienne. Le week-end a été marqué par des scènes proches de la guerre civile. Au moins 2 morts. L'armée, fidèle au président contesté Nicolas Maduro, repoussant avec violence les partisans du président autoproclamé Juan Guaido. Ces derniers voulaient faire entrer cette aide que refuse Maduro parce qu'elle vient des États-Unis.
Europe 1.
Voilà pour l'essentiel de l'actu et de l'actualité de ce lundi, parce que c'est quand même plus joli le mot actualité, de ce 25 février 2019. L'heure de filer au Grand Galop, non loin de la Canebière, pour y retrouver José Covès et des pronostics hippiques primordiaux à qui voudrait tenter sa chance aux courses aujourd'hui. Bonjour José Covès.
Quel plaisir de vous écouter, mesdames. Eh oui, nous sommes à Marseille. Marseille, Notre-Dame de la Garde, la Canebière, l'hippodrome de Borély, où 16% nous attendent au départ de la première course. Mes 5 favoris. D'abord, le 14, Just Formality. Il doit se souvenir que c'est lui le tenant du titre. La montée en puissance du 7, Incompo, arrive à point nommé. Le 9, Royal Ball, s'est déjà imposé sur ce tracé de 2100 mètres. Le numéro 1, Bagari, est le plus titré. Ici, il peut rafler une petite place. Quant au 6, Blue Hills, il revient sur le gazon. C'est sa meilleure surface. Trois autres possibilités. Le 10, Wilfried Set, déjà 3 victoires cette année. Deux fois 5. Wilfried Set, déjà 3 victoires cette année. Le 8, Foxtine, il vient de jouer de malchance. On a le droit de le racheter. Et enfin, le lunatique vénérable. Le 15, s'il est bien luné, il finira à l'arrivée.
Et alors, si on vous écoute, Just Formality, le 14, c'est juste une formalité pour la victoire.
C'est juste une formalité. Pour finir au moins dans les 3 premiers, il faut savoir qu'il obtient 100% de réussite sur ce tracé. Ainsi, il a remporté cette épreuve en 2018. Son jockey, Maxime Guyon, collectionne les victoires et va, avec une course limpide, juste aux formalités. Il doit remettre le couvert. La table est mise.
C'est parfait. Merci José Covès. On se retrouve demain matin.
Il est 5h50.
L'Antin, 5h, 7h. Eva Rock.
Folie contagieuse dans ce 5-7. Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains se poursuit avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici lundi les bons tuyaux. Aurélien Fleureau pour les écrans, un nouveau jeune padawan pour les nouvelles technologies, Clément Le Saffre et un ancien de la bande. Je dis ça avec le plus grand respect, Thierry Dufretard. D'ailleurs, j'ai une déclaration à vous faire. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus.
Ce sont des Alexandres.
Mais oui, mais... Molière et son misanthrope à l'affiche du Théâtre Libre à Paris, et c'est Lambert Wilson qui endosse les habits d'Alceste, Thierry.
Oui, vous venez de le dire, Eva, le misanthrope, l'une des plus grandes pièces du répertoire. Et pour Lambert Wilson, c'est ça. Première pièce de Molière. Et oui, pour la petite histoire, c'est en tournant le film Alceste à bicyclette avec Fabrice Luchini en 2012, que vous avez vu évidemment, mais ça se passe sur l'île de Ré et non pas sur la scène d'un théâtre. Eh bien, c'est en tournant ce film que Lambert Wilson a eu l'idée et l'envie de jouer Alceste, et voilà ce que cela donne.
Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux.
Vous voulez un grand mal à la nature humaine?
Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine.
Les pauvres mortels sont nuls exceptions seront enveloppés dans cette aversion. Encore en est-il bien, dans le siècle où nous sommes.
Non, elle est générale. Mais je hais tous les hommes.
Bon, vous l'avez compris, même si vous n'avez jamais lu ou vu la pièce, le misanthrope, c'est l'histoire d'un homme qui n'aime pas du tout ses semblables. Et c'est aussi et surtout une histoire d'amour. Alceste est un jaloux. Et comme le dit si joliment Molière, il a le chagrin bourru.
Mais ce Molière, ce misanthrope, il est en costume d'époque, j'imagine.
Absolument. Alors, je vous l'offre, cette photo magnifique. Malheureusement, les auditeurs ne voient pas. C'est en costume, comme l'on
Twitter,
dit.
Ouais. Hein,
les costumes sont très beaux. On est en plein 17e siècle. N'allez pas croire que c'est un détail pour Lambert Wilson, c'est même très important.
Ce que j'aime, c'est souvent avec les costumes, c'est la contrainte qu'ils imposent, qui nous donne une certaine tenue qui correspond à celle de l'époque. Pour moi, c'est toujours ça que je n'ai pas inventé. Ça me donne une colonne vertébrale, finalement. En plus, moi, je retire mes lunettes et donc, du coup, je ne vois pas très bien. Donc, entre la perruque et le costume et la moustache, je finis par avoir une sorte de reflet de moi-même qui ne me ressemble pas, et c'est la raison pour laquelle je suis acteur.
Le misanthrope de Molière avec notamment Lambert Wilson, c'est au Théâtre Libre, c'est l'anciennement Comédia, c'est ça.
Dans le 10e arrondissement. Et vous avez raison, Eva, de dire notamment Lambert Wilson, parce que je ne vais pas citer tous les comédiens qui sont sur scène, mais ils sont tous formidables.
Je sais que vous avez adoré, vous l'avez même
vu deux fois la pièce.
Hein, on est d'accord. Oui. Thierry, à vos côtés, il y a un petit nouveau, il est notre nouveau monsieur high-tech, Clément Le Saffre. Bonjour Clément.
Bonjour Eva, bonjour
vous
à tous.
Vous avez la lourde tâche de succéder au padawan Grégoire Martinez et Anne Le Gall qui maîtrisent les applications à avoir sur son smartphone. Et ce matin, vous revenez sur une technologie qui pourrait bouleverser nos usages du téléphone portable à 5G, parce que vous nous emmenez à Barcelone où se déroule le congrès mondial de la téléphonie mobile. C'est un peu le salon de l'auto des télécoms. Hein. Et donc cette année, cette grosse nouveauté, ce sont les smartphones adaptés à la 5G.
Absolument, et ça se bouscule au portillon, hein, Eva. Depuis hier, tous les fabricants sont réunis donc à Barcelone. Et parmi les nouveautés qu'ils présentent, eh bien, il y a ces premiers téléphones spécialement conçus pour la 5G. C'est le successeur évidemment du réseau 4G. Alors pour la petite histoire, c'est Samsung qui a damé le pion à tout le monde en représentant son S10 5G. C'était quelques jours avant, c'était mercredi dernier. Mais depuis, c'est la cohue. Hein. Huawei, Nokia, Sony, le chinois Xiaomi même, et j'en passe des meilleurs, sont tous annoncés un modèle de téléphone compatible avec la 5G.
Mais alors concrètement, ça veut dire quoi un téléphone adapté à la 5G ?
Alors tout est une question de puissance en fait. Hein. Pour faire simple, si la 4G était un ruisseau, la 5G, eh bien, ce serait un torrent. En gros, elle est capable de faire circuler énormément de données extrêmement rapidement. Alors avec la 5G, on pourra avoir accès à un meilleur réseau partout, y compris dans les endroits bondés comme les transports en commun, les stades, les festivals. Mais à terme, on pourra aussi faire plein d'autres choses comme télécharger des films en HD comme ça d'un claquement de doigts. Et on pourra aussi regarder Netflix, par exemple, dehors, si vous êtes dans le bus, sans que ça saute jamais. Alors pour nombre de testeurs de données, c'est un petit peu un défi, puisqu'il faut que les téléphones soient particulièrement puissant. Il ne faut pas juste changer la puce qui capte le réseau. Il faut aussi adapter tous les autres composants, à commencer par la batterie, puisque la 5G est très, 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 très énergivore.
Et si pour regarder que 30 secondes du film, je sens que ça va être frustrant. Quand est-ce qu'on va pouvoir tester ces téléphones 5G ? Alors, je sens que c'est là la mauvaise nouvelle.
Ah oui, je vais vous décevoir un petit peu en France. Il va falloir attendre un tout petit peu pour la simple et bonne raison. Mais pour utiliser des téléphones avec la 5G, il faut.
De la 5G.
Exactement,
voilà.
Vous avez bien suivi. Sauf que bah, voilà, les premières expérimentations n'ont fait que commencer. C'était l'année dernière. Ça a commencé par exemple à Bordeaux un petit peu. Mais pour que vous et moi, on vous envoie les effets concrets, bah, va falloir attendre 2020, voire 2021. Et encore, ça ne concernera d'abord que les grandes villes. Alors, il y a bien des pays qui sont un peu plus en avance que nous, les États-Unis, l'Australie, la Corée du Sud, par exemple. Mais en réalité, si les fabricants de téléphones présentent dès aujourd'hui leur modèle 5G, bah, c'est surtout pour leur image, tout simplement. Il s'agit juste de montrer qu'ils sont bien en pointe sur le plan technologique. Oui. Comme ça, quand ça se démocratisera, bah, ils seront tous prêts.
Merci beaucoup, Clément. Ah, Aurélien, c'est à vous. Et je sens que vous allez ravir nos oreilles en ce lundi matin avec un documentaire à voir sur Netflix qui retrace le parcours de Sam Cooke, l'un des plus grands chanteurs de soul décédé à l'âge de 33 ans.
Oui, c'est une enquête sur la vie et la mort de Sam Cooke qui fait partie d'une série de 8 documentaires qui reviennent sur la disparition de stars de la musique. Il y a Bob Marley ou Johnny Cash, par exemple. Et celui-là, c'est le dernier en date sur la plateforme. Et il a la bonne idée de démarrer par quelques secondes de la sublime voix de Sam Cooke.
Sam had that magic voice. I wanna say that, darling,
you. Vous validez Thierry Giffrotin là.
Ah, il y a du grand.
Ah, voilà, on est d'accord.
Oui, il y a de la personnalité.
Et donc, on y entend de nombreux intervenants, des très proches du chanteur comme Quincy Jones, Smokey Robinson et même des membres de sa famille comme sa belle-sœur.
Alors, le documentaire s'appelle « Les deux assassinats de Sam Cooke ». Pourquoi ce titre, Aurélien ? Alors,
parce qu'au-delà de sa mort par balle dans un hôtel miteux en décembre 64, dans des circonstances très troubles, c'est ce qu'incarnait le chanteur qui a aussi été ciblé, un jeune homme noir né dans le Mississippi qui devient une star dans une Amérique encore en pleine ségrégation. Mais avant d'arriver à cette fin tragique, le récit permet de découvrir les débuts fracassants de ce jeune crooner, tout droit sorti d'un groupe de gospel. Son premier titre se classe directement numéro 2 du hit parade, juste derrière Elvis Presley.
Et très vite, il va utiliser sa notoriété pour faire passer des messages. C'est ça qui est intéressant dans le documentaire.
Exactement, et on voit qu'il prend beaucoup de risques dans cette Amérique au tout début du mouvement pour les droits civiques. Il est menacé par le Ku Klux Klan, il boycotte un théâtre où le public blanc est encore séparé du public noir. Il s'affiche également avec Malcolm X et Mohamed Ali. Tout cela lui vaudra d'être surveillé par le FBI. Sam Cooke va également être menacé par la mafia qui avait réussi à complètement gangréner l'industrie musicale à l'époque. Et c'est d'ailleurs l'une des pistes principales. Quand on voit la manière dont il a été tué, tout cela ressemble à une grossière mise en scène pour se débarrasser de lui, tout simplement. Il aura tout de même laissé cette chanson intemporelle, un hymne de la lutte des Afro-Américains pour l'égalité, qui sortira un petit peu après sa mort. Et ça s'appelle évidemment « A Change Is Gonna Come ».
Chanson qu'il avait écrite après avoir entendu celle de Bob Dylan, Blowing in the Wind, un titre régulièrement diffusé avant les discours de Martin Luther King. Merci Aurélien Fleuron, on se quitte avec cette magnifique voix. Merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera demain pour mardi. Les Bons Tuyaux, c'est logique et ça marche à tous les coups.
Europe 1. Il est 5h58, Eva Rock.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Laurent Cabrol et le journal de 6h avec François Geffrier.
Il est 5h59, Eva Rock.
L'heure de la météo avec vous, Laurent Cabrol, en quelques secondes. Pull ou pas pull aujourd'hui ?
Pas pull. Non, pas de pull. Alors, ce matin, si, parce qu'il fait froid, entre moins 2 et plus 7 degrés. Dans la journée, comme hier, même un petit peu plus doux qu'hier, entre 12 et 17 au nord, 18 à 22 au sud. Voilà mon télégramme. Et puis, le ciel est bleu, stop, hein. Ça vous va ?
Mais c'est parfait, merci beaucoup. Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.